Alors le thème de cette table ronde Mars, exploration et défis scientifiques. Donc on va essayer de faire une table ronde qui sera un tout petit peu plus dosée science que la précédente qui faisait partie des conférences littéraires. On est quand même là pour parler de science-fiction et le principe c'est évidemment de mélanger les deux. Donc il y aura une bonne dose de science-fiction dans nos conversations, je l'espère. Alors nous avons autour de cette table ronde eh bien Gérard Klein qui vous a été présenté il y a 1 heure et donc je vais redire que Gérard Klein évidemment est aussi oui ce matin et sans doute demain. Donc Gérard Klein est évidemment auteur de science-fiction, éditeur des collections Ailleurs et Demain chez Robert Laffont notamment et la collection SF du livre de poche que vous connaissez forcément. Écrivain, économiste, enfin bon, avec plusieurs cordes à son arc. Et puis, évidemment, Gérard a, comme ça a été dit précédemment, une très bonne vision de la science-fiction de ces 50 dernières années. Et je pense que sur Mars, on a encore des choses à apprendre de lui. Nous avons aussi Éric Pichol, donc, qui est à sa droite. Éric Pichol est physicien, qui est aussi, on pourrait dire, philosophe des sciences, spécialiste aussi de la science-fiction et en particulier de Robert Heinlein. Éric a publié plusieurs ouvrages, notamment Solutions non satisfaisantes aux éditions du Somnium, qui est une très très belle analyse de la littérature de Robert Heinlein. À sa droite, Laurence Sunner, qui est un auteur de science-fiction suisse qui a fait de la BD d'ailleurs auparavant, et là qui publie son premier roman en avril chez L'Atalante, Vestige, et c'est le premier d'une trilogie. Donc nous attendons donc évidemment la suite. Norman Spinrad, qui est un auteur américain que je ne présente pas trop non plus, puisque vous le connaissez évidemment certainement. Je cite Jack Baron et l'éternité, évidemment, Rêve de fer, et puis plus récemment, auteur de Le temps du rêve. Norman Spinrad a obtenu de nombreux prix, dont notamment le prix Utopia en 2003, et il pourra nous expliquer un peu quel est son regard sur l'évolution de la littérature martienne ces dernières années. Et enfin, Gilles Moutier, qui est donc scientifique, qui dirige le service d'études analytiques et de réactivité des surfaces au CEA. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais pour le faire simple, il est impliqué dans la mission Curiosity, donc ce robot qui se promène actuellement sur Mars, et en particulier sur, finalement, l'instrument scientifique le plus SF, on va dire, de la série, qui est ce laser qui tire sur les roches pour les analyser. Et donc, il pourra un peu nous expliquer eh bien, à quoi sert cet instrument et puis finalement où en est aujourd'hui Curiosity. Voilà, donc après cette longue introduction, je vais directement passer la parole. J'ai commencé par une question scientifique toute bête et elle s'adressera donc à vous, Gilles Moutier, puisque donc en ce moment, au moment même où nous parlons, on a un robot de 800 kilos, on a une petite Twingo qui se promène sur Mars. Quels sont les premiers résultats de l'exploration de Curiosity sur Mars. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petites choses?
Oui, alors absolument. En fait, c'est plus exactement une Clio en volume avec le poids d'une Twingo. Donc pour se donner un peu l'ordre d'idée, la maquette est sur le stand qui est au bout, c'est une maquette à l'échelle 1,5. Donc en fait, on imagine que c'est le double et la hauteur, c'est quand je me tiens debout le bras droit, ça représente la hauteur réelle. Alors, aujourd'hui, Curiosity a atterri. Il a atterri au mois le 6 août, très exactement. L'atterrissage s'est merveilleusement bien passé. Et donc, il a commencé, après quelques jours de tests, à travailler. Aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé à l'endroit où on espère obtenir les choses les plus intéressantes. En fait, il s'est posé dans un cratère en direction d'une montagne qui fait 5 km de hauteur. Et le but, c'est d'aller grimper petit à petit le long de cette montagne qui fait 5 km de hauteur, parce que bien évidemment, avant d'être une montagne qui faisait 5 km de hauteur, liée à des effets sismiques et volcaniques, c'était sous la Terre, évidemment. Donc aller mesurer, analyser la composition physico-chimique sur cette montagne, ça revient à creuser des kilomètres en profondeur, donc ça évite de creuser des kilomètres en profondeur pour analyser l'évolution de la construction et de l'évolution de la planète, ce qui est aussi intéressant en termes de compréhension de l'évolution de notre planète Terre. Il y a presque une dimension philosophique là-dedans. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a pu obtenir, ce qu'on a pu voir, c'est des choses auxquelles on s'attendait. Il ne faut pas oublier que Curiosity n'est pas le premier à s'être posé. On a eu les Vikings 1 et 2 en 76-77, Mars Pathfinder en 97, Opportunity et Spirit dans les années 2000. Et donc, on avait déjà un certain nombre de bonnes idées de ce qu'on imaginait qu'on allait trouver. Donc, au jour d'aujourd'hui, les analyses qui sont faites ont permis de mettre en évidence la présence de roches qui sont de composition à peu près identique à celles qu'on trouve sur Terre. Mais encore une fois, c'est normal et on s'y attendait. Il n'est pas encore arrivé au pied de la montagne qu'il va commencer à gravir, où on espère là trouver des indications du fait qu'à un moment, les conditions étaient réunies pour que les mécanismes chimiques se mettent en route pour aller vers la création de la vie.
Bon. C'est-à-dire qu'on cherche les conditions d'apparition de la vie. On ne cherche pas la vie directement en ce moment sur Mars.
Non. Très sincèrement, je ne pense pas qu'on croisera un petit bonhomme vert. Je ne pense pas qu'on croisera un cafard, un scarabée ou un insecte ou quelque chose comme ça. Non, je ne pense pas non plus qu'on trouvera de cellules, même monocellulaires, parce que la planète est une planète morte, refroidie depuis des milliards d'années. Par contre, ce qu'on peut trouver, ce sont ou bien les produits de dégradation de ça, s'il y en a eu, ou plus exactement, et c'est plutôt ça qu'on cherche, c'est mettre en évidence que les conditions ont été réunies à l'époque, un peu comme la Terre, parce que Terre et Mars n'étaient pas très très différentes au départ, simplement à un moment elles ont pris des chemins différents. C'est de mettre en évidence qu'à un moment, les conditions sur Mars étaient réunies pour que la vie puisse se développer. Et puis ensuite, l'histoire a fait que la planète s'est refroidie, elle a perdu son atmosphère, le cœur s'est figé, c'est plus liquide, etc., etc.
Quand on s'intéresse à Mars et qu'on essaie de faire un peu le portrait robot de la planète, on se rend compte que finalement, c'est une planète dont le rayon est moitié moins de celui de la Terre. C'est une petite planète, sa masse est 10 fois inférieure à celle de la Terre. Il fait très froid, la pression est ridiculement basse.
Et
finalement, comment se fait-il que ce soit Mars qui, à ce point, focalisé l'attention des scientifiques, alors que, si on regarde les chiffres encore une fois globalement, on a une autre planète qui a la taille de la Terre, qui s'appelle Vénus, dont on pourrait imaginer qu'elle est quand même l'objet où il faut aller. Et finalement, pourquoi Mars a pris un tel poids dans la recherche et dans l'exploration du système solaire? Et ensuite, je posais cette question peut-être à Norman Spinrad ou Gérard Klein sur pourquoi finalement, en science-fiction aussi, ça a été dit dans la précédente table ronde, c'est Mars, la planète par excellence de la science-fiction, c'est Mars. Mais alors, scientifiquement, pour quelle raison?
Je me demande si scientifiquement, il n'y a pas une raison science-fictionniste aussi à un moment en amont. Parce que avant de partir explorer Mars, je sais pas, les chroniques martiennes de Bradbury, elles étaient sur Mars, elles n'étaient pas ailleurs. Donc je pense que dans l'imaginaire, le premier pas qui va un peu plus loin que la Lune, naturellement, c'est un peu Mars. C'est pas Vénus, c'est un peu Mars. Vénus, c'est celle dont on voit, dont on suit la direction, qui permet de ne pas se perdre dans la nuit. Mais Mars, c'est celle sur laquelle, potentiellement, dans l'imaginaire, on va peut-être aller habiter. Alors ensuite, entre Mars et Vénus, Mars, il fait froid. Les distances ne sont pas très différentes. Mars, il fait froid et c'est plus facile d'explorer une planète où il fait froid qu'une planète où il fait très chaud, où c'est très acide et où les matériaux auront un peu de mal à tenir pour l'exploration. Donc finalement, c'est un peu plus simple. Mais je pense quand même qu'au départ, il y a aussi cet imaginaire collectif que les auteurs de science-fiction ont créé il y a pas loin d'un siècle, qui nous entraîne un peu dans cette dimension-là. On a toujours imaginé des bonhommes verts sur Mars, pas sur Vénus.
Oui, Norman Spinrad.
Well, the point for me is that this is the exploration of Mars is potentially the most important scientific exploration in the history of the human race. And if the answer to the ultimate question is, did life evolve on two planets in the same solar system? And that's number one. If life evolved on two planets in the same solar system, then it's pretty obvious that life is common throughout the galaxy. We know now that there are maybe trillions of planets out there, which we haven't known, which is a very new knowledge. And there are there are several questions here which may or may not be decided by what is eventually discovered on Mars. One is life, whatever life is, a kind of inevitable consequence of certain physical parameters that are common throughout the galaxy. I'm not talking about the universe. Let's deal with this galaxy. It's easier. If that's so, then there's a second question, which is, does all life have to be based on the same molecular structure as Earth DNA, or can there be greater variations? If we discover life that had ever existed on Mars, even a microbe, even a virus, this would be the greatest discovery in the history of the human race. Because of what we know now about the prevalence of planets in a galaxy, if it seems to me that if two planets in the same solar system evolved life independently, then life has to be a consequence of the universe, not something rare. I remember a few years ago when they discovered whatever they discovered in these Martian asteroids that were landed in Antarctica, which they said may or not have contained fossils. And I was asked by Figaro to write something about this, and I said much the same thing. It still hasn't been decided, but I think there's a good chance, correct me if I'm wrong, that discovery may, if there are fossils, microscopic fossils, discover them or not. But this, I think, is the greatest question in the history of the human race. Indeed, in the history of whatever other races there may be out there. Are we alone in the universe? Which would be a really strange thing right now, considering what we know about the commonality of planets in the galaxy, maybe trillions of them. And these are the only trillions that we have seen with the instruments we presently have, which are not so good at detecting rocky planets the size of Mars. So this, to me, although I'm not primarily a hard science fiction writer, I suppose, has fascinated me from the beginning, because I think this is the grand question of the universe. Is life a natural consequence of the physical creation of the universe, or is it something strange and unique? When I was a little boy, I was given my first astronomy book by my Aunt Phyllis, which was a nice little book. And at that time, everybody believed, at that time, the common belief was that the solar system was created by the close passage of another star to our sun. And that was what it was, and it was a very rare, unique thing astronomically. Then we see that no, in my lifetime, no, that's not true, that solar system evolved in a natural way, and they've evolved millions of times in the solar system, in the galaxy. So the question is the next step in natural evolution the evolution of what we call life? Now, there's a secret, sort of, although it's not a military secret, that people don't like to say too much about in the scientific sphere because it's very politically dangerous. The fact is that in a limited way, we, the human species, have actually sort of created life with off-the-shelf chemicals. We've created life. We can do that. We know how at least it evolved from the chemical basis on this planet, and we can sort of begin to replicate it. So the grand question is, are we alone? Is life a consequence of the laws of mass and energy, or is it an accident? And if I'm betting right now, I will bet that it's a consequence of the laws of mass and energy, and that there is a fairly good chance that something will be discovered by curiosity on Mars that will verify that. Some little fossil, some complicated fossilized molecule that will show that life is indeed a consequence of the physics of the universe, and it will evolve anywhere where it has a halfway chance of evolving.
Alors là, Gilles Moutier, vous avez une grande pression là maintenant sur les épaules. Il va falloir trouver quelque chose. Gérard Klein, sur cette question, sur pourquoi Mars, pourquoi pas Vénus, qu'est-ce qui rend Mars si particulier ?
Alors, dans l'imaginaire, dans la littérature de science-fiction, dans l'imaginaire de la littérature de science-fiction, Mars occupe effectivement une position privilégiée. Mais au fond, depuis relativement peu de temps. Alors, il y a une petite exception plus ancienne, c'est la place que donne Swift dans les voyages de Gulliver, dans le passage concernant l'île de Laputa, à Mars et à ses deux satellites. Et c'est d'autant plus surprenant que Swift donne des positions pour ces deux satellites qui sont très voisines de celles qui ont été observées près de 150 ans plus tard. Bon, là-dessus, il y aurait toute une histoire, mais pas le temps de vous la raconter pour l'instant. En revanche, c'est seulement à partir de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire, alors il y a une raison ancienne qui est qu'on a pu observer assez tôt des formations, les pôles, enfin, etc., sur Mars, alors que Vénus est demeurée une boule dont on ne connaissait même pas la durée de rotation sur elle-même pendant très longtemps. Alors donc, à la fin du 19e siècle, il y a l'histoire des canaux martiens, Schiaparelli, enfin Tegnadi, Lowell, enfin, etc., donc qui suscite un intérêt considérable dans la presse et dans le grand public. Et c'est à partir de là que le primat de Mars s'installe dans la littérature. Mais Vénus conserve une très grande place pendant longtemps. Edgar Rice Burroughs écrit une série vénusienne à côté de sa série martienne. Et une idée populaire, évidemment non scientifique, qui était très répandue, c'était que Vénus était une planète plus jeune que la Terre et qui en était à peu près à son ère secondaire. Il faisait très chaud, c'était plein de reptiles, de dinosaures et de bestioles comme ça, tandis que Mars était une planète beaucoup plus vieille, enfin, etc. Et donc ce primat est relativement récent, et quand Wells lui donne une dimension exceptionnelle avec sa guerre des mondes, c'est sur cette histoire de canaux, et d'ailleurs dans une nouvelle antérieure qui s'appelle L'œuf de cristal, c'est cette histoire de canaux, enfin sur toute cette popularisation d'une Mars qui a été habitée, qu'il s'appuie. Voilà, donc... Alors c'est finalement assez récemment, enfin du coup Mars n'a jamais perdu son primat. Et si je puis me permettre de contredire notre scientifique, Monsieur Moutier, je crois quand même que si on pose des robots sur Mars plutôt que sur Vénus, c'est qu'on n'a jamais rien réussi à poser durablement sur Vénus, vu les conditions ambiantes, plus de 500 degrés... pratiquement des lacs de plomb fondu ou quelque chose d'approchant. Donc c'est, pour l'instant, c'est assez délicat. Tandis que sur Mars, après tout, on est comme sur la Lune, dans de bonnes conditions, ça bouge pas trop.
Alors, vous l'avez dit, donc effectivement, je crois que c'est en 1909, Antoniadi démontre cette histoire de canaux martiens à l'Observatoire de Paris. D'ailleurs, grâce à la grande lunette, il démontre qu'il n'y a pas de canaux créés par une civilisation extraterrestre. Et finalement, simplement, Schiaparelli, et d'ailleurs surtout Lowell, vous voyez moins bien, parce que sa lunette était moins précise. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que donc en 1909, on a donc un scientifique, un astronome qui dit, ben non, écoutez, cette histoire de canaux, vous êtes trompé, il n'y a rien. On pourrait croire que ça aurait pu susciter une désaffection finalement des auteurs de science-fiction pour cette planète. Et malgré tout, on a quand même, alors à côté des rêveries de Edgar Rice Burroughs, une littérature martienne qui persiste. Comment on peut l'expliquer? Et d'ailleurs, entre le Mars de la guerre des mondes ou alors le Mars de John Carter et le Mars de Bradbury, on sent un changement quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut l'analyser? Qu'est-ce qui s'est passé en science, finalement, qui a changé quelque chose?
Je ne sais pas si je peux répondre pour la littérature. Non. Bon, le Mars, d'abord parce que c'est une planète relativement proche de la Terre, à peu près accessible dans les mêmes conditions que Vénus, hein, passons sur les détails. Mais Mars perd quand même, d'abord la presse et le grand public mettent très longtemps à prendre acte de ce qu'on découvre effectivement, donc ça continue à fonctionner dans l'imaginaire comme ça, mais enfin elle perd son primat. Quand on lit beaucoup de textes des Pulps par exemple, ou même d'ailleurs d'ouvrages français, d'après 1909, c'est toutes les planètes et les satellites des grosses planètes qui sont allègrement colonisés. Je relisais récemment les nouvelles de Stanley Weinbaum, qui est un écrivain que j'apprécie tout particulièrement. Bon, il fait pas le détail, hein. C'est Io, c'est Callisto, c'est pas seulement Mars, c'est les planètes extérieures. Donc, non, je crois quand même qu'à partir au moins des années 20 ou des années 30, l'image de Mars enfin change dans la littérature. Alors, le cas de Bradbury, est, comme on l'a évoqué lors de la précédente table ronde, enfin quelque chose de tout à fait particulier, puisque, sachant très bien ce qu'il fait, il renoue avec la vieille idée des canaux.
Gilles Moutier, une question encore un peu plus scientifique que vous avez légèrement abordée dans le début de votre intervention. Est-ce que Mars et la Terre ont réellement partagé un passé commun? C'est-à-dire, est-ce que ça a un sens vraiment d'aller chercher sur Mars un éclairage sur l'origine de la vie ou sur l'évolution de la Terre?
Je suis pas un spécialiste de l'histoire des planètes, donc je me garderai bien de tirer des conclusions définitives. Mais oui, ce sont des planètes qui ont en tout cas une évolution qui semble avoir été proche au début de leur histoire. Puis ensuite, chacun a vécu sa vie, et donc l'évolution de la planète Mars à un moment s'est bloquée, alors que l'évolution de la Terre, elle a continué. Et donc c'est une façon de revenir en arrière sur l'évolution de la planète Terre. C'est une façon de mieux comprendre comment l'évolution de la Terre a pu amener. Et pour rebondir un peu sur ce que disait notre camarade, c'est une façon de se poser effectivement la question, est-ce que la vie sur Terre, non, est-ce que la vie tout court, c'est un accident totalement, en termes de probabilité, inimaginable qui s'est posé sur la Terre, ou est-ce que c'est un mécanisme presque naturel et d'un point de vue énergétiquement normal lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies pour que ça amène naturellement à une forme de vie pluricellulaire telle qu'on la connaît, quand je dis la connais, pas telle qu'on est aujourd'hui, mais telle que le fonctionnement le permet. Donc oui, c'est aussi une façon d'essayer de répondre à cette question-là. Si il apparaissait qu'une forme de vie sur Mars avait commencé à se mettre en mouvement, en termes de probabilité, c'est quasiment inexistant, si c'est uniquement un accident. À l'inverse, ça veut dire que c'est une forme normale d'évolution si les conditions sont réunies. Je pense que c'est ça qui est passionnant.
Je vais un peu me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la vie soit en fait unique au système solaire? Après
oui,
tout,
oui, oui, absolument.
Je connais les scientifiques un petit peu.
Il y a différentes ordres de grandeur comme ça, la planète Terre, le système solaire, la Voie lactée, etc., etc. Oui, peut-être, effectivement.
Norman Spinrad parlait d'une éventuelle détection de vie sur Mars. Est-ce qu'on peut pas imaginer, Eric Pichol, que si on découvrait finalement une vie martienne et que par chance, enfin en tout cas on détectait un ADN comparable à celui la structure de l'ADN serait comparable à celle de l'ADN terrestre, est-ce qu'au finalement il n'y aurait pas des scientifiques, et je suis sûr que oui, qui diraient mais oui, c'est simplement que la vie vient de Mars, c'est tout simple, elle est apparue sur Mars et puis elle est venue ici, et d'une certaine manière est-ce que ça ne résoudrait pas ce débat sur effectivement est-ce que la vie est quelque chose qui apparaît partout dans l'univers. Est-ce qu'on peut imaginer une découverte de vie sur Mars qui malgré tout nous laisse dans l'incertitude et dans le doute pour cette question?
Je Je dirais que ce n'est pas une, mais deux questions. Il y a une question qui est presque une question technique de détail, et une question qui relève de la philosophie. Il y a la question de savoir si la vie peut se propager. Une fois qu'on a reconnu de la vie, une fois qu'on a admis qu'il y avait de la vie sur une planète, est-ce qu'elle peut se propager d'une planète à l'autre, effectivement, comme vous le disiez, d'une planète vers son satellite, et puis à plus grande échelle, d'une planète vers une autre planète du même système solaire, et pourquoi pas vers les étoiles. On peut aller vers les théories de la panspermie, et la question se pose. On aura besoin, quand la question se posera sérieusement, de modèles de propagation de ce genre de choses. On a un certain nombre de propositions. Il y en a plutôt plus dans les textes de science-fiction aujourd'hui que dans les études scientifiques réalistes, parce que simplement on n'a pas de données et que les scientifiques n'aiment pas beaucoup dire des choses en l'absence totale de données. Mais le jour où la question se posera, le jour où on aura effectivement trouvé des molécules d'ADN ailleurs que sur Terre, on se penchera très sérieusement sur des modèles de propagation de ces choses-là. Je ne veux pas présager de la solution, mais je ne doute pas qu'on aura des réponses à ce moment-là. Puis il y a une autre question qui est, qu'est-ce que ça change sur notre vision de la vie ? Là, c'est, je vais probablement prendre une position de physicien un peu caricatural et qui risque de faire bondir les biologistes s'il y en a dans la salle. Mais je crois que c'est Léon Brioin qui explique quelque part que la science commence là où les mots ont un sens bien défini. Or, le mot de vie n'est pas quelque chose de bien défini, au sens où peut l'être la science. En fait, il y a énormément de concepts alors, qui sont, quand on parle de biologie, quand on parle de xénobiologie, a fortiori, quand on parle d'astronomie, on a des concepts qui sont souvent tirés de la philosophie, qui sont importés dans la science en l'état, essentiellement parce que la science n'a pas encore eu le temps de les retravailler. Quand une science a une certaine maturité, elle a retravaillé son lexique, elle a stabilisé son lexique, et on sait exactement ce qu'on veut dire par un terme ou par un autre. On n'en est pas encore là pour ces questions de xénobiologie en particulier. Du coup, en matière, dans la mesure où on n'a pas de consensus scientifique sur le sens des mots comme la vie, la question est-ce que l'ADN c'est de la vie, est-ce qu'une molécule qui contient de l'ADN c'est de la vie ou pas, ça c'est une question technique, mais c'est aussi une question philosophique. La définition de ces termes est essentiellement déclarative. Comme souvent en philosophie, je suis un homme, j'ai des droits parce que quelqu'un a un jour déclaré les droits de l'homme. La question de savoir si un embryon est un homme ou pas est largement légale. C'est une question là encore déclarative. Quelqu'un va déclarer que à partir de tel moment, à la conception, après tant de semaines ou à la naissance, tel être est considéré comme un individu, comme un homme, au sens où il a aussi des droits particuliers. Et de façon plus générale, c'est vrai aussi de la vie. Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que tel objet, est-ce que telle molécule peut être considérée comme vivante ? À partir de quel moment, à partir de quel niveau de complexité on va considérer que quelque chose est vivant ? C'est une question de déclaration. Alors c'est pas quelqu'un, ça va être une communauté, et ça peut être différentes réponses pour différentes communautés. La communauté des biologistes va donner sa réponse, la philosophie peut en donner d'autres. Quand la question se posera, et elle s'est posée déjà de différentes façons, elle a déjà pas mal évolué au XXe siècle, on aboutira à un moment ou à un autre à un consensus sur une définition qui reconnaîtra la vie ailleurs comme de la vie, qui reconnaîtra ceci ou cela comme de l'intelligence ou non, et on agira en fonction de ces définitions. Je dirais que la question, le jour où, en pur fantasme d'auteur de science-fiction, on rencontrera quelqu'un qui débarquera sur la place de la Concorde en disant « je veux rencontrer votre chef », la question de la vie et de l'intelligence ne se posera pas. On le reconnaîtra immédiatement comme notre égal, ou notre supérieur, ou notre inférieur. Enfin, en tout cas, on le reconnaîtra comme quelqu'un avec lequel on peut avoir une interaction. Donc, comme un individu qui a des droits, et la question de la vie ne se pose pas, la question de l'intelligence ne se pose pas. Plus on descend dans le scénario, et plus on rencontre des objets simples, jusqu'au moment où on parle d'un fossile dont on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans, d'une molécule, d'une trace de molécule, de la signature spectroscopique de ce qui a peut-être été une molécule ou des composants de l'ADN, là ça devient extrêmement difficile de dire si ce qui a laissé cette signature était vivant ou était intelligent. Et donc pour essayer de répondre à votre question, en fait, évidemment, tant qu'on n'a pas les mots, tant qu'on n'a pas posé les définitions rigoureuses, on aura des disputes entre des clans qui diront bah oui, c'était de la vie, oui, c'était intelligent, ou non, c'était pas de la vie, non, c'était pas intelligent. Et ce sont ces discussions même qui amèneront à faire évoluer notre vie. Pour l'instant, la posture des biologistes, c'est le vivant, c'est la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Donc ça inclut pas la vie telle que nous ne la connaissons pas. À mesure que nous connaîtrons d'autres, que nous aurons d'autres données, d'autres éléments, nous connaîtrons d'autres choses et nous nous déterminerons sur le fait que c'est de la vie ou pas. Après débat.
Alors, en tout cas, en ce qui concerne Mars, finalement, si on vous écoute, la vie qui a été imaginée sur Mars par les auteurs de SF est, je vais être un peu caricatural et provocateur, assez pauvre. C'est-à-dire que ce sont des Martiens, en général, assez proches de nous. Alors, ceux-là, ils n'existent pas. Enfin, on ne les trouve pas. Non, vous inscrivez en faux sur ce que je dis. Je vais quand même poser.
Oui, allez-y. Oui, parce que bon, dans une Odyssée martienne, Stanley Weinbaum, décidément, c'est toujours à lui qu'on revient. Il décrit précisément des formes de vie qui sont radicalement étrangères à ce que nous connaissons. Et c'est une nouvelle qui doit dater de la fin des années 30, je pense, et qui est tout à fait extraordinaire. C'est pas un chef-d'œuvre littéraire, mais intellectuellement, c'est prodigieux. D'ailleurs, quant à la vie sur d'autres mondes, il s'est amusé aussi, mais il n'a jamais poussé les choses aussi loin que dans une Odyssée martienne où il y a trois ou quatre formes de vie, dont une qui parvient à communiquer avec un naufragé terrestre, enfin terrien, qui est donc intelligente. C'est à lire, à relire et à méditer.
En tout cas, aujourd'hui, dans la science-fiction, le martien semble avoir disparu. Alors peut-être que vous me contredirez. On a l'impression que le martien a un peu a complètement disparu. Alors est-ce que c'est Bradbury, c'est le génocide des chroniques martiennes qui est passé par là? Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il est arrivé aux martiens? Est-ce qu'il est arrivé aux sélénites à la fin du 19e siècle?
Ça dépend un petit peu du type de littérature qu'on considère, mais la littérature qui nous intéresse en tant qu'elle est en dialogue avec la science, c'est disons pour faire simple, la art science fiction ou la science-fiction qui est la science-fiction bien informée de la science, bah, celle-là est bien obligée de prendre en compte les images qu'on a reçues de la science, de Mars. La science-fiction des années 30 ne savait rien. On pouvait encore mettre quelque chose qui ressemblait beaucoup au canon de Lowell en couverture d'Astounding à la fin des années 30. C'était déjà plus possible dans les années 40 parce qu'on commençait à savoir faire des choses. L'astronomie avait fait de gros progrès, donc on avait des images de Mars qui étaient beaucoup plus réalistes, mais on ne savait toujours pas ce qu'il y avait en dessous, sous les nuages. Donc il était relativement facile d'imaginer des martiens ou des créatures peuplant Mars. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que, par des techniques effectivement d'observation à distance, que Mars était relativement froid sur la plupart de sa surface, que la pression était basse, que c'était de toute façon des conditions relativement hostiles. Donc progressivement, les Martiens, on est passé d'une civilisation florissante avec des jungles à une civilisation quasiment de désert, voire une civilisation plus ou moins éteinte avec des anciens Martiens. On en trouve chez Heinlein, on en trouve chez Bradbury. Et puis quand les sondes vikings sont descendues sur Mars et qu'on a vu essentiellement des images noires et blancs très tristes qui étaient des photos d'un désert de Caïas, l'auteur qui cherchait à interpréter, à mettre en scène la vie sur Mars en tenant compte de ces paysages de Caïas avait besoin de beaucoup plus d'imagination que celui qui avait une liberté totale. Donc très largement, les auteurs qui voulaient décrire des civilisations entières florissantes avec des villes, avec des sociétés compliquées, les ont envoyés ailleurs que sur Mars, en général dans les étoiles, là où on n'a pas encore donné.
Je voulais mettre un bémol à ce que je disais tout à l'heure, aussi à ce que tu disais, sur la disparition du thème des canaux de Mars, parce que je me suis souvenu, en fait il a persisté longtemps après 1909, et sa dénonciation par Sébastien Antoniadi, puisque je crois que c'est au début des années 1950, j'ai l'article. Dans un numéro de Astounding Science Fiction, il y a un article sur les canaux, examiné d'un point de vue topologique. L'auteur a fait remarquer que, d'après les cartes qui ont circulé de ces canaux, les embranchements sont de type ternaire, alors que dans la nature, en règle générale, ce sont plutôt des embranchements à quatre quand il y a des cristallisations ou quand il y a des fissures qui se... Bon. Là, il fait tout un raisonnement là-dessus en faisant des comparaisons. Ça m'a frappé à l'époque ou plus tard parce que je me suis occupé d'urbanisme comme économiste. Effectivement, dans les systèmes routiers, enfin, etc., on a des structures particulières qui sont artificielles et qui ne correspondent pas aux structures topologiques en rond de la nature. Alors, l'auteur en tirait donc dans les années 50, au début des années 50, la conclusion que ce qu'on avait observé, s'il y avait quelque chose, c'était pas naturel. Voilà.
Ah, j'aimerais qu'on aborde une autre thématique avec vous, Laurent Sonneur, peut-être sur... Oui.
J'aurais voulu justement du coup poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça voudrait dire que Mars est finalement victime du réalisme des informations qu'on possède sur elle et que du coup ça bloque l'auteur, le créateur?
Oui, Laurent Sunin peut répondre là-dessus.
Alors oui, alors je pense que maintenant Mars, simplement, c'est ce qui a changé pour moi, c'est qu'on dans les livres de science-fiction, on va dire actuels, comme Mars, la rouge, la verte, la bleue de Robert de Kim Stanley Robinson, etc. Moi, je pense que ça n'enlève pas du tout à la magie de la traîne Mars, parce qu'on en voit comme une sorte de Far West, un nouveau Far West, un nouveau territoire à explorer, en fait. Donc, je pense que ça bloque absolument pas donc l'auteur, parce qu'on peut tout imaginer, même dans les bouquins de Eschbach, qui sont le projet Mars. Je ne sais pas si vous les avez lus. C'est un livre pour la jeunesse. C'est juste fantastique. C'est les premiers colons sur Mars. Et c'est, moi, j'ai lu ça, j'ai dévoré ces bouquins, c'est magnifique. Il n'y a pas de martiens, hein. Oui, quoi qu'on, à la limite, dans le Room 3, on peut imaginer qu'il y en a, mais disons que l'objectif n'est plus là, le but n'est plus là. Le but, c'est vraiment Mars, c'est le héros, c'est le nouvel héros, la nouvelle Terre promise, etc., où il faut aller. Donc, pour moi, c'est complètement fascinant. Donc, je pense que ça enlève absolument rien du tout à la magie du concept martien. Simplement, c'est un petit peu changé. On le voit d'un point de vue un peu scientifique. C'est la première Terre, c'est la seule Terre où on peut aller, on pourrait faire une colonie, etc., si c'est possible, bien entendu. Donc, je pense que ça enlève rien du tout à la magie, à l'attrait de Mars, quoi. En tout cas, moi, je suis fascinée par Mars.
Donc, voilà. Justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, Mars, c'est donc cet espace vierge à coloniser, à modifier. Mais alors, le premier obstacle, on en a parlé au tout début, c'est que la pression est ridicule, la température est incroyablement faible. Donc, on arrive évidemment sur ces thèmes de terraformation, ce rêve de transformer le climat global d'une planète, et donc l'idée de savoir est-ce qu'on pourra rendre Mars habitable. Dans votre roman, Laurence Sunner, en fait, on a une équipe les gens quittent le système solaire parce qu'ils ont essayé la terraformation de Mars et ça a raté.
Oui, alors dans mon livre, bon voilà, ça c'était un peu un prétexte parce que je voulais une Terre extrasolaire qui était à disposition avec une atmosphère, etc. Et c'est vrai que dans mon livre, bon, c'était un peu aussi pour prendre un peu le pendant, etc., et que j'avais lu pas mal de choses sur la terraformation, et ça me semblait très très difficile avec les dernières données en fait de la science de recréer vraiment une atmosphère avec la difficulté de vraiment reconstituer une atmosphère pour qu'elle reste en fait aussi. Donc je me suis dit, voilà, ils ont raté la terraformation. Mars est quand même colonisée dans mon bouquin. Simplement, elle n'est pas terraformée. Et eux, dans mon livre, simplement, ils décident en fait de coloniser une Terre extrasolaire qui est en glaciation globale, mais qui a une atmosphère, qui est un résidu donc il reste de l'oxygène parce qu'il y a eu de la vie en fait, et la glaciation est très très rapide, donc il y a des restes d'oxygène dans l'atmosphère, et comme l'atmosphère est renouvelée en fait, parce qu'autrement l'oxygène normalement disparaît assez rapidement, oxyde les roches, donc en fait normalement s'il n'y a pas une production d'oxygène constante, elle a tendance à disparaître. Voilà.
Alors, la terraformation de Mars qui aurait raté, je me souviens d'une conversation avec vous, Éric Pichol, il y a quelques années. Vous m'expliquiez que finalement, la terraformation de Mars, l'humanité s'y est serrée, ne serait-ce que pour essayer de résoudre les problèmes de notre propre planète. C'est-à-dire qu'il faudra passer, selon vous, par une ingénierie globale. C'est une mauvaise nouvelle, finalement. Si on a raté la terraformation de Mars, ça veut dire que.
Ça veut dire qu'on est fichu. On doit s'occuper de notre Terre. On doit mieux s'occuper de notre Terre. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une route, on n'a pas une second chance.
Pas de seconde chance.
Pas de seconde chance.
Oui, essentiellement, l'idée est presque la même que celle que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sciences nouvelles. J'ai dit tout à l'heure que la xénobiologie est une science nouvelle et qu'on allait devoir se forger de nouveaux outils. La planétologie est aussi une science nouvelle. Et en un sens, la géologie, la climatologie, la description de la Terre est aussi en cours de révision. Pendant très très longtemps, la géologie, ça a été la description très locale de ce qui se passait, des structures géologiques à un endroit donné, dans une région donnée, avec éventuellement des influences à l'échelle d'un pays, mais guère au-delà. Et la climatologie, c'était la prédiction du temps qu'il allait faire à un endroit donné, à relativement court terme dans le temps et sur un espace relativement faible. Ça, c'est en train de changer de façon dramatique aujourd'hui. Pour d'excellentes raisons. On a des problèmes climatiques, on a des problèmes écologiques, on a probablement déréglé le climat, pour dire les choses simplement, où on est en train de le faire. on peut être, si on ne fait rien, si on ne se dote pas des outils pour arranger les choses, on sera dans une situation extrêmement dangereuse à la fin du XXIe siècle en termes de dérèglement climatique. Pour moi, je ne suis pas forcément pessimiste de ce point de vue-là. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il nous reste relativement peu de temps, il nous reste une paire de décennies pour développer une véritable climatologie, une véritable planétologie, c'est-à-dire des outils théoriques, la capacité de faire des modèles climatiques globaux, de faire des modèles d'évolution éventuellement géologique, en tout cas d'évolution de la structure de la planète à l'échelle planétaire. Ce qui est un programme scientifique extrêmement complexe, ça demande des puissances de calcul monstrueuses, enfin, être capable de prendre en compte l'ensemble d'une planète dans toute sa complexité, c'est quelque chose qu'on est très très loin de savoir faire aujourd'hui, même si les programmes météo ont fait des progrès considérables, enfin, on va dans cette direction, on saura le faire dans un futur probablement prévisible, mais on est loin de savoir le faire encore aujourd'hui. Mais au-delà de ces capacités de modélisation, si effectivement les choses ne s'arrangent pas et si on ne change pas nos comportements, ce qui me semble à peu près exclu parce que les problèmes politiques sont souvent beaucoup plus compliqués que les problèmes scientifiques et techniques, on aura besoin d'une ingénierie, on aura besoin d'un contrôle climatique, on aura besoin d'outils pour remettre en place le climat qu'on aura déréglé, et ça on en aura besoin, à mon avis, d'ici la fin du XXIe siècle. Or, il y a un problème, c'est que le développement de ces outils est forcément quelque chose d'extrêmement dangereux. Si on cherche à travailler à l'échelle d'une planète, ça mobilise des énergies colossales et on ne peut pas se louper. Laurence envisageait la possibilité qu'on loupe la terraformation de Mars. Ah, ce n'est pas un drame, on va voir ailleurs. Si on loupe l'ingénierie climatique sur la Terre et qu'on dérègle complètement le climat de la Terre, qu'on la rend inhabitable, là, on a un gros problème. Donc ces technologies d'ingénierie climatique, il faudra les tester. Et de préférence, il faudra les tester ailleurs que chez nous. Et donc ma prédiction, je pense pouvoir être relativement affirmatif là-dessus, c'est que d'ici la fin du XXIe siècle, on aura développé, pas forcément des outils idéaux, mais en tout cas des éléments technologiques qui nous permettront de faire ce qu'on peut pour arranger l'état dans lequel on aura mis la Terre, et qu'on les aura testés. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait deux voisins, Mars et Vénus, la Lune est déjà morte et n'est pas comparable à la Terre du point de vue climatique. Ces outils, on les aura testés, soit sur Mars, soit sur Vénus, soit sur les deux. Et je pense que la raison la plus puissante de colonisation de Mars à relativement court terme, pour moi, c'est celle-là. Je suis un vieux fan, évidemment, de la colonisation martienne. Je serais ravi de penser que les politiques et les contribuables nous offriront une aventure martienne et une colonisation humaine de Mars pour la gloire, parce qu'elle est là, comme disait Kennedy à propos de la Lune. J'y crois pas une seconde. En revanche, je pense que l'urgence politique qui sera liée à ces problèmes d'écologie terrienne sera suffisamment pressante du point de vue politique pour justifier une colonisation de Mars et probablement un début de terraformation de Mars. Pas forcément pour y habiter, pas forcément dans l'histoire d'un succès dans la colonisation de Mars, mais simplement pour le test des outils dont on aura besoin.
J'aimerais bien avoir l'avis de Norman Spinrad sur ce point, puisque on compare souvent la science-fiction martienne actuelle, enfin celle des années 90, enfin, je pense à Kim Stanley Robinson, le thème de la nouvelle frontière et vient souvent, les nouveaux espaces à coloniser, et on fait un comparatif avec le Far West, puisque c'était il y a un siècle, enfin à peu près. Et effectivement, sur la côte ouest, on a transformé des déserts en champs fertiles, enfin sur une partie. Est-ce qu'on peut rejouer le coup sur Mars? Est-ce que ça vous semble probable? Est-ce que cette planète pourrait être rendue habitable? Et est-ce que c'est un thème qui vous intéresse en science-fiction?
It's interesting, but I think there's a lot of... A lot of escaping the real reasons for doing these things. If you're talking about economic reasons for colonizing Mars, which is 35 million miles away, which is about, 400 times further than the moon, it's kind of a, it doesn't make any sense. Just as it doesn't make any sense to say that any of these things are important for economic reasons, political reasons, but for cultural reasons is another story. This is the beginning of the next frontier. It's the easiest planet to colonize. It's the easiest planet to perhaps terraform, except this one, which could use some terraforming right now. So it's conceivable that it will be done, because I think in the long run, when I say the long run, a century, two centuries, it can be done. Whether it will be done remains to be seen. But we're at the crux. We don't. There's so many things about the universe and life and other planets that we don't know, that all our previous ideas have been thrown into the garbage can by, that the theories have been thrown away by the observations. And I think there are reasons to terraform Mars, to colonize Mars, that are almost religious, semi-religious. They're philosophic. They're the idea of expanding into the universe. It's the last frontier. If we destroy this planet, we'll have that planet, which is a questionable assumption. If we destroy one planet, whether we're going to do much better with another one. But I think, and I think it's one of the essential things that makes science fiction science fiction, is the idea of a human culture that is not confined to one planet, and arguably not even to one solar system, over a period of centuries or millennia, if we survive our transformation crisis now. I think in the long term, we're going to do all these things. We're going to do the ones that are doable. We're going to, I hate the word colonize. That's a little political. We will move to Mars. We'll maybe have condominiums or something. We will go there. We will gradually expand our presence there. And whether we actually terraform the planet or not, or contrary, genetically engineer ourselves to survive in a place like that, which might be a lot easier and a lot cheaper than doing the whole planet. I think when you're talking about the millennial history, these, unless we really screw up and destroy ourselves, destroy this planet, we're going to be doing things like that. We're going to be starting maybe with the moon, which is not going to be terraformed very easily, but is easily enough to reach. But Mars has always been the dream because it's close. And there's even some indication from certain archaeological things, and also from what is being discovered on Mars now, is that sometime in the not-too-distant past, Mars may have had a geosphere that was not that inimical to our form of life, and that perhaps we could have even have lived on ourselves had we evolved as a sentient species at that time, a wetter, drier, greener Mars. And I think that may be true, and I think there will be if we discover any kind of life on Mars, anything that was ever there whatsoever, or anywhere else in the universe, it is going to change everything. It is going to destroy every single terrestrial religion. It's going to render it moot. It's going to render it ridiculous. We are going to become something entirely different culturally from what we are now. And should we spend another 50 or 60 years exploring Mars and the rest of the solar system and what we can explore of the rest of the galaxy, and we don't find another biosphere, even a dead one, anywhere, that will be the most shocking and unlikely discovery in the history of the universe and of our, of, well, in the history of our species, if in fact we are a random event and more or less alone in this galaxy, which seems unlikely. Of course, I've written this one too. It's called Avalier David, but that doesn't mean that I believe that something like that is very likely. I think we are on the cusp of a transformation of our culture and our civilization that will be certainly the biggest thing that happened in our history, the biggest thing that happened in our evolution as a sentient species, and ultimately the biggest thing that ever happened in the evolution of a biosphere on this planet, that we are not alone, or we are alone. Within our lifetimes, we're going to know the answer to that.
Alors, le général Klein avait une remarque, et ensuite je passerai le micro au public pour une ou deux questions. On va un tout petit peu déborder. Alors, je m'excuse pour la table suivante.
Je voulais juste te dire un mot. J'appartiens au groupe d'action terroriste fondé par Brian Aldiss sur le thème « Ne touchez pas à Mars, explorez Mars, mais ne changez pas notre Mars ».
Et oui, il y a un débat là-dessus aussi. Alors, s'il y a des questions dans la salle, écoutez, c'est le moment. Oui, une question au premier rang. Et puis, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi de l'autre côté, au fond.
Oui, je pense que c'est aussi le moment, dans ce cas-là, d'évoquer dans le palais des rois martiens de John Varley, où là, la terraformation de Mars est faite par les martiens eux-mêmes, pour les nouveaux martiens qui sont les terriens. Donc il y a une sorte de lien entre Bradbury et John Varley. Et je pense que les terroristes là auraient fort à faire.
Oui, il y avait une question au fond de la salle.
Oui, hier, à peu près à la même heure, Nancy Kiss nous disait que si la science permet de faire quelque chose, un jour, cela se fera forcément. Alors, je voudrais vous poser à vous, en tant que scientifique, amateur de SF ou auteur de SF, d'après vous, est-ce qu'un jour l'homme posera un pied sur Mars? Et faisons un pronostic pour vous, quelle agence ou quel pays?
Gilles Moutier, peut-être, pour commencer.
Si la science permet de faire quelque chose, alors ce quelque chose se fera. Au jour d'aujourd'hui, j'en mettrai pas ma tête à couper. Parce que la science, elle reste quand même relativement théorique, elle permet des concepts, des extrapolations. Après, il faut le faire, et pour être un peu vulgaire, ça coûte beaucoup de sous. Et donc des choses qui pourraient se faire ne se font pas pour ces raisons-là. Et on pourrait prendre des tas d'exemples, et j'en ai en tête, mais ça va largement déborder, mais on pourrait en discuter à côté. Sur Mars elle-même, moi je rejoins beaucoup ce que dit Gérard Klein, n'expatrions pas sur Mars nos propres problèmes, apprenons plutôt à gérer nos propres problèmes sur Terre et n'allons pas expatrier nos difficultés ailleurs. Je pense que c'est la chose la plus importante à en tirer. La science ouvre des portes, mais c'est pas les scientifiques qui prennent les décisions de les utiliser ou de la manière de les utiliser. On retombe dans le domaine plutôt politique et économique, dans ce cas-là.
Oui, moi je distinguerai deux choses. Il y a d'une part la connaissance et d'autre part il y a la technique ou l'innovation. La connaissance, aussi bien fondamentale qu'appliquée, c'est effectivement quelque chose qui est à peu près irrépressible. Les scientifiques sont teigneux et quand ils sont partis sur quelque chose, qu'il y a un véritable désir de trouver quelque chose, on ne résiste pas à un défi, ça prend le temps que ça prend, mais la communauté scientifique, effectivement, finit toujours par arriver à sa fin. L'innovation, c'est quelque chose de différent. L'innovation, c'est la rencontre d'une technique et d'un marché et d'une demande sociale. Ça, pour le coup, ça ne se fait pas automatiquement. Et les scientifiques sont aussi avant tout des citoyens. Ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, c'est déterminé par des contraintes économique, mais c'est aussi déterminé par la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la société pose une loi claire et décide qu'un certain nombre de choses ne doivent pas se faire, elles ne se font pas. Peut-être troisième élément de réponse, très très rapidement, les limites qu'on peut se donner. Vous posiez la question, quelle agence pour aller sur Mars? La question aujourd'hui est posée en termes de nombre de milliards ou de centaines de milliards qu'on est capable de mettre sur la table. Je pense que ça, c'est une relativement, c'est une façon de raisonner à court terme. Effectivement, si on doit faire le voyage aujourd'hui, c'est comme ça que la question se pose. Si on pose la question à moyen ou long terme, les technologies auront complètement changé. On aura et donc le coût des technologies sera complètement différent. Aujourd'hui, il faut 6 mois pour aller sur Mars. Si on se donne un moteur à poussée permanente, qui est, ne serait-ce qu'un G, c'est l'affaire de quelques jours. Aujourd'hui, on a le ticket d'entrée pour aller sur Mars. Je crois que la NASA le chiffre à quelque chose comme 200 milliards de dollars ou d'euros, c'est presque pareil. Demain, voire dans quelques décennies, ça peut tomber à 100 fois moins. Or, 200 milliards, c'est rien. Le budget de la sécurité sociale en France, c'est 1500 milliards. Ça veut dire qu'avec deux mois de budget de la sécurité sociale en France, on peut s'offrir Mars. Et c'est un effort réparti sur une décennie. Si on compte comme ça, la Belgique, le Luxembourg peuvent s'offrir un projet martien. Alors c'est une question de volonté politique. Je ne suis pas optimiste sur le fait que des politiques dans aucun pays aujourd'hui, en l'absence d'une course aux armements, en l'absence d'une course de prestige comme il y a pu y avoir entre les États-Unis et l'URSS, seront prêts à investir 200 milliards dans quoi que ce soit. Mais si la volonté politique il y a, ce ne sont même pas des grosses sommes, en fait.
Juste pour rebondir là-dessus, dire quand Kennedy a dit « avant la fin de la décennie, nous marcherons sur la Lune », je peux vous garantir que les gens de la NASA ont eu des sueurs froides, parce qu'ils ne savaient absolument pas comment ils allaient faire ça. Mais il y a une volonté politique de le faire. Alors la volonté politique, après, c'est la volonté économique, c'est effectivement 10 milliards, 200 milliards, c'est énorme quand on parle de ça. Mais c'est réparti sur un certain nombre d'années, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans s'il le faut. Et quand on compare à certains budgets, c'est pas énorme. Donc c'est dans le domaine de la volonté politique réellement forte de le faire. Donc Kennedy a dit, avant la fin de la décennie, nous marcherons sur la Lune. Ma foi, on peut imaginer des choses comme ça. Sauf que pour Mars, c'est techniquement un peu plus compliqué. Parce qu'il y a des problèmes aussi de radioactivité intersidérale, etc., dont il faut se protéger, etc., etc. À titre personnel, je ne suis pas certain de voir quelqu'un marcher sur Mars avant ma mort. Mais c'est à titre personnel, parce que ça met en jeu un certain nombre de choses. Et je crois, par contre, on parle de quelle sera la communauté qui l'enverra. Je pense que ça sera une communauté universelle.
Écoutez, je pense qu'on a pas mal débordé déjà sur l'horaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. Et puis nous allons laisser la place aux Pulps.